VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Bamako, 1h de l'après-midi à Yaoundé. Bienvenue dans notre journal. RDC, le département d'État américain, exprime son inquiétude au sujet de la détention prolongée de jeunes activistes pro-démocratie par les autorités congolaises. Les précisions de Chérubin Dorsil.
Le département d'État se dit particulièrement préoccupé que ces jeunes gens soient détenus sans inculpation et sans accès à des avocats. Dans un communiqué publié hier, la porte-parole intérimaire du département d'État, Marie Harf, a évoqué les cas d'au moins 3 membres du mouvement Filimbi, interpellés le 15 mars lors d'une manifestation pacifique de la société civile à Kinshasa et détenus depuis lors. Madame Harf a aussi relevé les cas d'au moins 4 membres de l'organisation Lucha, arrêtés dans des circonstances similaires à Goma, dans la province du Nord Kivu, et qui sont eux aussi en prison. Washington appelle le gouvernement de la République démocratique du Congo à veiller à ce que ces activistes et tous les détenus fassent l'objet d'une procédure judiciaire en bonne et due forme et qu'ils soient immédiatement remis en liberté si aucun chef d'accusation n'est retenu contre eux.
RDC toujours, le gouvernement congolais prêt à exhumer les 421 corps enterrés le 19 mars dernier dans une tombe commune à Maluku, à environ 100 km de Kinshasa. Le ministre de la Justice et des Droits Humains en a fait l'annonce hier. Alexis Tambwe Mwamba a aussi dit que 3 enquêtes sont en cours au plan judiciaire, administratif et policier. Un extrait de sa déclaration au micro de Top Congo FM.
J'ai signalé dès le départ qu'il n'y avait pas de tabou, on n'a rien à cacher. J'ai signalé dès le départ que si le magistrat instructeur estime qu'il faut exhumer, on va exhumer. En plein jour, en présence de tous les diplomates du monde, en présence de tous ceux qui veulent assister. Donc c'est au magistrat instructeur, en fait, disons, à décider.
Il est dit dans le communiqué, le procureur général de la République, M. Flori Kabangenumbi, invite toute personne qui détiendrait une information susceptible de l'aider à accélérer les investigations qu'il mène sur les rumeurs autour de la fosse commune de Maluku à venir la lui communiquer, soit directement à son office, soit en contactant le chef du parquet secondaire de Kinkolé, les officiers de police judiciaire de la police nationale congolaise, les inspecteurs de police judiciaire de l'auditorat général ou tout autre officier du ministère public ou de police judiciaire de son choix. Le procureur général de la République a également envoyé un courrier dont il m'a réservé copie à la date d'hier au représentant du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour lui dire, écoutez, les allégations qui sont dans votre rapport, savoir notamment que vous avez été informé par des gens qui avaient des odeurs pestilentielles. On ne les a pas constatées et nous lui demandons de pouvoir amener, en fait, disons, ces personnes pour qu'elles soient entendues par le magistrat instructeur. À la date d'aujourd'hui, le dernier rapport que je viens de recevoir ce matin, c'est que de nouveau, il y a eu une rumeur selon laquelle, à la suite des dernières pluies, la tombe s'est effondrée et qu'on voit les cadavres. Une équipe d'enquêteurs a été dépêchée sur les lieux, les enquêteurs de la police scientifique. Elle est descendue hier sur le site de cimetière et elle a constaté, en fait, disons, qu'il n'en était rien. La tombe était intacte malgré les fortes pluies. Et il y a 2 jours, le gouvernement provincial de Kinshasa a de nouveau demandé au procureur de Kinkolé de pouvoir désigner un site pour l'enterrement qui aura lieu ce week-end et où il y aura probablement plus de 200 personnes. Mais à la journée d'hier, il y avait 197 corps à la morgue de Kinshasa.
Le ministre congolais de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba. La visite du président guinéen Alpha Condé aux États-Unis maintenant, le professeur Condé a accordé hier une interview à VOA Afrique. Au micro de Nicolas Pinault, il a démenti que les forces de l'ordre en Guinée aient tiré à balles réelles lors des récentes manifestations à Conakry et il s'est plaint de l'absence d'union dans le pays en cette période de lutte contre l'Ebola.
Bon, vous savez, l'Ebola est un problème national. Nous avons lancé un appel à tout le monde, les sociétés civiles, les partis politiques, pour qu'on fasse l'union sacrée, parce que l'Ebola c'est une guerre, pour qu'on mène la guerre contre l'Ebola, afin de mettre fin à l'Ebola. Bon, évidemment, il est souhaitable que tout le monde se mobilise d'abord pour mettre fin à l'Ebola, ce qui n'explique pas, parce qu'au moment où on fait l'urgence sanitaire renforcée, normalement, il ne devait pas avoir de manifestations ni de mouvements de foule.
Mais les forces de l'ordre ont-elles tiré à balles réelles sur les manifestants?
Ce n'est pas vrai. Vous regardez les forces de l'ordre, vous pouvez prendre des films, vous avez des collaborateurs là-bas. L'armée est casernée. Et la gendarmerie et la police n'ont pas d'armes. Ils ont des armes non létales, c'est-à-dire des grenades lacrymogènes. Par contre, vous avez des civils qui tirent sur les gendarmes avec des fusils de chasse. Si vous allez, beaucoup de diplomates peuvent vous confirmer qu'ils viennent voir les gendarmes à l'hôpital. Maintenant, je ne sais pas d'où viennent ces informations de dire qu'on a tiré. Dans aucun des hôpitaux, il n'y a eu aucun seul mort. Et la gendarme ne tire pas à balles réelles.
Le président guinéen Alpha Condé. Lutte contre Boko Haram, le Nigeria n'a pas besoin d'aide militaire de l'ONU. Les Nations Unies devraient plutôt se concentrer sur l'assistance humanitaire et la reconstruction sociale. C'est ce qu'a déclaré hier le président sortant nigérian, Goodluck Jonathan.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Fermeture des bureaux de vote au Soudan et début du dépouillement du scrutin après 4 jours d'élection. Les deuxièmes élections multipartites dans le pays depuis 1989. Le président Omar al-Béchir et son parti sont pratiquement assurés de remporter la victoire. Morgane Guiriec.
Les élections ont commencé lundi et devaient se terminer mercredi, mais ont été prolongées d'une journée. Cependant, le vote se poursuivra ce vendredi dans l'état de Jazira, dans le centre du pays, en raison de problèmes dans le transfert de bulletins dans 152 bureaux de vote. Certains bureaux resteront ouverts jusqu'à samedi dans une région du Darfour Nord. Les résultats sont attendus à la fin avril. Âgé de 71 ans, le général Omar el-Béchir est presque assuré d'être réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Il avait en face de lui 15 candidats, très peu connus, dont 2 se sont retirés en dénonçant des irrégularités. La majorité de l'opposition avait appelé au boycott et apparemment le taux de participation a été faible.
Au Kenya, la question de la présence des troupes kenyanes en Somalie divise la classe politique. Écoutons à ce propos Timothée Donangmaï.
Depuis l'arrivée au pouvoir du président Uhuru Kenyatta en avril 2013, plus de 400 personnes ont péri dans des attaques terroristes dans son pays. La plus meurtrière étant celle de Garissa, qui avait fait 148 morts. Pour le sénateur Bulo Kero du comté de Mandera, une des zones kenyanes les plus touchées par les attaques de ces derniers mois, les troupes kenyanes doivent se replier aux frontières. Je pense que les forces de défense du Kenya doivent se redéployer pour créer une zone tampon d'environ 50 km ou plus à la frontière, mais pas à Kismayo ou dans les autres villes. Le sénateur Kero a fait remarquer que dans le comté de Mandera, qui partage 270 km de frontière avec la Somalie, on compte moins de 200 soldats et 1 ou 2 casernes, alors que selon lui, il faut des soldats kenyans tous les 20 ou 30 km le long de la frontière. Par contre, Ali Roba, gouverneur du comté de Mandera, que citent les médias kenyans, veut que les soldats kenyans restent en Somalie. Monsieur Roba, qui a survécu à plus de 2 attaques, pense que les troupes kenyanes y font un bon travail. L'opposition kenyane estime que l'implication du Kenya en Somalie n'est pas étrangère à la récente vague d'attaques terroristes à travers leur pays. Pour le sénateur James Orengo, membre de l'opposition, une insurrection est en préparation au Kenya et les troupes nationales doivent rentrer pour combattre les réseaux terroristes locaux. La menace d'Al-Shabaab se manifeste d'une manière différente. Cette insurrection externe est en train de devenir une menace vraiment interne. Nous apprenons qu'ils essaient de recruter des Kenyans pour rejoindre Al-Shabaab en Somalie et ils engagent des Kenyans plutôt que des Somaliens pour leurs activités illégales au Kenya. De l'avis du vice-président kenyan William Ruto, ceux qui exigent le retrait des troupes kenyanes répondent en fait à l'appel d'Al-Shabaab. Le débat exigeant que nos forces reviennent au Kenya est inutile. Les Shabaab sont ceux qui disent que nous devrions retirer nos forces de la Somalie. Alors comment vous, dirigeants kenyans, pouvez-vous vous joindre à Al-Shabaab pour demander de retirer nos forces? Seriez-vous Al-Shabaab? Le groupe de suivi des Nations Unies pour la Somalie et l'Érythrée chiffre à 500 le nombre de jeunes ayant rejoint Al-Shabaab en Somalie. Les autorités kenyanes ont accordé une amnistie de 10 jours aux jeunes kenyans se trouvant dans cette situation, leur enjoignant de signaler les insurgés à la police et de dénoncer la violence. Bien accueillis par les leaders musulmans, la mesure est rejetée par leurs homologues chrétiens qui estiment qu'une telle amnistie revient à céder au terrorisme.
Et pour terminer, conflit au Yémen, appel du secrétaire général de l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu immédiat dans la guerre opposant les rebelles chiites houthis à la coalition arabe sunnite menée par l'Arabie saoudite qui bombarde les positions des rebelles depuis 3 semaines. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info.